de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Président Joko Widodo est fier de la défaite 3-0 de l'équipe nationale indonésienne contre le Vietnam. Autorité IKN lance un plan directeur de gestion de la biodiversité. Indonésie déboursera 15 milliards de roupies pour la Palestine sur le budget du BNPB. Indonésie soutient la formation au Laos pour la réunion du ministre des Finances et de la Banque centrale. Indonésie espère que la résolution de cesser le feu à Gaza sera pleinement mise en œuvre. Indonésie inclut les questions d'éducation et de santé des femmes dans la CSW 68. Basnas de la République d'Indonésie prépare une aide humanitaire de 2 milliards de roupies pour le Soudan. Bonjour, je vais t'en voici les nouvelles incomplètes. Le président indonésien Joko Widodo a exprimé sa fierté de la victoire de l'équipe nationale indonésienne de football en battant l'équipe nationale du Vietnam 3-0 au deuxième tour du match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 dans la zone asiatique, groupe F, mardi soir. Via le compte Instagram @jokowi, mardi, le président Joko Widodo a mis en ligne une photo de lui accompagné d'un certain nombre de ministres indonésiens avancés lors d'une visite de groupe. Le président s'est dit fier d'assister à l'attaque de l'équipe nationale Garuda. Le président Joko Widodo a également félicité l'équipe nationale indonésienne de football pour sa première victoire au Vietnam en 20 ans. Le président a également écrit « L'équipe nationale est sur le point de passer à la troisième phase de qualification de la Coupe du Monde 2026 ». L'autorité de la capitale d'État Nusantara au IKN a lancé mardi 26 mars à l'IKN le plan directeur de gestion de la biodiversité, un effort pour garantir que le développement de la nouvelle capitale nationale aille de pair avec la préservation de l'environnement. Dans son discours, le chef de l'autorité IKN Bambang Susantono a déclaré que le document du plan directeur représente des mesures concrètes prises pour protéger la biodiversité. Bambang Susantono a dit:
This new document, the Nature Positive Plan,
ce nouveau document, le plan Nature Positive, représente nos mesures concrètes pour protéger et gérer la biodiversité dans la capitale. Nous sommes conscients que Kalimantan possède une richesse naturelle extraordinaire et nous sommes donc obligés, pas seulement de protéger l'écosystème existant, mais aussi de le préserver. Bambang Susantono a expliqué que l'action fondamentale dans cet effort était de transformer 65%, soit près de deux tiers de la superficie de l'IKN de 252 000 hectares. Cette transformation a été réalisée grâce à un vaste processus de reboisement. Le document du plan directeur pour la gestion de la biodiversité à IKN définit les orientations politiques, les programmes et les objectifs visant à protéger la biodiversité à IKN. Selon Bambang Susantono, le plan Nature Positive est conforme aux objectifs du cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal 1-2030. Le ministre coordonnateur du développement humain et de la culture, Muhajir Effendi, a confirmé que le gouvernement indonésien enverrait une aide de 1 million de dollars américains ou l'équivalent de 15 milliards de roupies à la Palestine sur le budget de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB. L'Indonésie fournira également une aide d'un montant de 1 million de dollars au Soudan. Cela a été décidé lors d'une réunion au niveau ministériel concernant l'assistance à la gestion des urgences sanitaires en Palestine et au Soudan au bureau du ministère de coordination du développement humain et de la culture à Jakarta mardi 26 mars. Cité par Antara, Muhajir a expliqué que ces fonds étaient prélevés sur le budget prêt à l'emploi de la BNPB. Il a également confirmé que l'un des articles envoyés pour obtenir de l'aide était des médicaments. Cette aide pour la Palestine sera acheminée via le gouvernement égyptien. L'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère des Finances et de l'AID indonésienne, collabore avec le ministère des Finances du Laos pour organiser un programme de formation en préparation de la 11e réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques de l'ASEAN. La réunion aura lieu à Luang Prabang, au Laos, en avril 2024. La formation vise à améliorer les capacités et l'état de préparation des officiers de liaison et des officiers volontaires dans un communiqué officiel reçu par Antara mardi 26 mars. La chef de la section d'information publique et de communication de l'Agence de politique fiscale BKF du ministère indonésien des Finances, Endang Larasati, a expliqué que la formation était une mise en œuvre de l'accord de coopération en matière de subventions entre les gouvernements de l'Indonésie et du Laos. Cette formation devrait renforcer les capacités des LO et VO qui joueront un rôle important en assistant les délégués lors de la 11e réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques de l'ASEAN. Cette aide est également une manifestation de l'engagement de l'Indonésie à soutenir la présidence du Laos. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, espère que le contenu de la résolution de cessez-le-feu à Gaza, en Palestine, qui a été ratifiée par le Conseil de sécurité de l'ONU, pourra être mis en œuvre dans son intégralité par toutes les parties impliquées. Ça, c'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, aux journalistes à Jakarta mardi 26 mars. Retno Marsudi a déclaré que le gouvernement indonésien a vraiment accueilli favorablement la résolution numéro 2728 de 2024 qui a été ratifiée lors d'un vote par le Conseil de sécurité de l'ONU à New York aux États-Unis lundi 26 mars. Or, local. En fait, pour cette raison, la ministre Retno Marsudi a admis avoir continué à communiquer avec l'ambassadeur d'Indonésie à New York qui a suivi le processus de décompte des voix jusqu'à ce qu'elle soit finalement ratifiée. 14 pays ont convenu de soutenir la résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pendant le mois de Ramadan, conduisant à un cessez-le-feu durable. Le gouvernement indonésien inclut les questions liées aux droits de l'éducation et aux droits de la santé des femmes et des fils et des filles dans les documents finaux de la 68e session de la Commission de la condition de la femme mardi à Jakarta lors d'une conférence de presse intitulée « Participation de la délégation de la République d'Indonésie à la 68e session de la CSW à New York », la directrice des droits de l'homme et de l'humanité au ministère des Affaires étrangères, Indah Nuria Savitri, a déclaré que l'Indonésie comprend également les questions liées à la garantie que les droits à l'éducation et à la santé des filles et des femmes est également bien pris en compte. Elle a ajouté que l'Indonésie avait également soulevé la question des travailleurs migrants. Selon Indah Nuria, les travailleurs migrants sont une priorité car de nombreuses travailleuses migrantes indonésiennes rencontrent souvent diverses difficultés dans l'exercice de leurs activités. On espère donc que la promotion et la protection des travailleurs migrants indonésiens pourront être incluses dans les références et recevoir une bonne attention. La 68e session de la Commission de la condition de la femme, CSW, s'est tenue du 11 au 20 mars avec pour thème prioritaire accélérer la réalisation de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. L'Agence nationale Amil Zakat Baznaz de la République d'Indonésie s'est engagée à envoyer une aide humanitaire d'une valeur de 2 milliards de roupies pour faire face à la crise alimentaire qui frappe actuellement le Soudan. Cette aide humanitaire prend la forme de produits alimentaires et de médicaments dont la population soudanaise a actuellement besoin. Le président de Baznaz Indonesia, Nur Ahmad, a déclaré mardi dans un communiqué à Jakarta que le Soudan est l'ami le plus proche des musulmans d'Indonésie. Baznaz a donc accepté d'aider en envoyant dans un premier temps une aide humanitaire d'une valeur de 2 milliards de roupies. Nur Ahmad a déclaré que l'aide humanitaire était une aide du programme de solidarité mondiale islamique appartenant à Baznaz. Il a ajouté qu'outre la Palestine, Baznaz fournit également une assistance à d'autres à travers le programme de solidarité mondiale islamique. Dans le cadre de son engagement humanitaire, Baznaz Indonesia se coordonne avec l'ambassade d'Indonésie au Soudan et continuera de s'efforcer d'y fournir l'assistance nécessaire. Bon, ce jeudi, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Progrès du développement de la capitale de l'archipel » avec moi, Audrey. Chers amis, la construction de la nouvelle capitale d'État, Nusantara, IKN, se poursuit mardi 26 mars. L'autorité de la capitale Nusantara a lancé le plan directeur de gestion de la biodiversité à l'IKN. Il s'agit d'un effort visant à garantir que le développement de la nouvelle capitale nationale aille de pair avec la préservation de l'environnement. Le chef de l'autorité IKN, Bambang Susantono, à Jakarta, a déclaré mardi que la construction de la capitale du Kalimantan oriental était souvent critiquée, car elle était considérée comme susceptible de nuire à l'environnement. Cependant, il a souligné que la construction d'IKN est en réalité la preuve de l'engagement de l'Indonésie à restaurer les forêts tropicales de Kalimantan, l'une des stratégies étant la protection et la gestion de la biodiversité. Le développement de la capitale de Nusantara est en effet un sujet de préoccupation, pas seulement pour les habitants du pays, mais aussi pour plusieurs pays, surtout ceux qui sont prêts à investir dans la capitale de Nusantara. La construction de la capitale Nusantara devrait être achevée en 2045. Actuellement, la construction en est encore à sa première étape. Le gouvernement indonésien vise à réaliser cette année la première phase de relocalisation de la capitale et de ses diverses fonctions. L'an 2 a été marqué par la tenue d'une cérémonie pour la 79e anniversaire de l'Indonésie le 17 août 2024. Le premier coup de pioche de divers projets importants s'est déroulé en 5 étapes. La 6e étape devrait être mise en œuvre en mai, lorsqu'il a présidé la cérémonie d'inauguration de la phase 5 le 29 février. Le président Joko Widodo a estimé que dans 10 ans, la ville de Nusantara serait devenue une ville dynamique et habitée par de nombreuses personnes. Pour la première étape du déménagement, le palais présidentiel a été construit dans la capitale de Nusantara. On rapporte que la construction a atteint plus de 70%. Parallèlement, la construction du bâtiment du ministère et des logements ministériels devrait être achevée en juin 2024. Le gouvernement continue de faire preuve d'un grand optimisme quant au développement de la capitale indonésienne, Nusantara. La construction de bâtiments importants, comme le bâtiment du Parlement indonésien, devrait être réalisé en 2025. La préparation des logements pour les fonctionnaires de l'État a également commencé. Cette grande confiance n'est pas seulement manifestée par le gouvernement. Les investisseurs qui se sont engagés à participer au développement d'IKN vers une ville mondiale ont également pris des mesures concrètes. L'une d'elles consiste à créer le Forum des investisseurs IKN. Ce forum a été créé pour accélérer le processus d'investissement dans l'IKN. Plusieurs pays, dont la Malaisie, Singapour et la Chine, ont exprimé leur intérêt à participer au développement de l'IKN. Cela renforce la confiance dans le fait que la construction de la nouvelle capitale indonésienne pourra être achevée conformément aux objectifs. Le développement de la capitale indonésienne ne se résume certainement pas à la poursuite d'un objectif temporel précis. Ce qui est plus important, c'est que la réalisation de cette capitale Nusantara IKN améliorera à l'avenir le bien-être du peuple indonésien, en particulier de ceux qui vivent autour d'IKN. Pour changer d'art, c'est tout, le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 27 mars 1968, date de l'investiture du général Soeharto à la présidence de l'Indonésie. Le 27 mars 1968, Soeharto est officiellement nommé président de l'Indonésie en remplacement du président Sukarno. À partir de là, son leadership a duré plus de 32 ans. Finalement, en 1998, une manifestation massive a été organisée par les étudiants et le public du mouvement réformateur exhortant Soeharto à démissionner. Le 21 mai 1998, Soeharto a annoncé qu'il avait démissionné de son poste. Il a été remplacé par le vice-président Baharudin Yusuf Habibie en tant que nouveau président de la République d'Indonésie. Passons maintenant à l'événement du 27 mars 1977, la collision entre deux Boeing 747 en Espagne. Le 27 mars 1977, deux Boeing 747 appartenant à KLM et Pan Am sont entrés en collision sur la piste d'aéroport de Los Rodeos, aujourd'hui l'aéroport de Tenerife, dans les îles Canaries en Espagne. Le Boeing 747 de KLM s'apprête à décoller, suivi par le Boeing 747 de Pan Am qui le suit pour décoller. Cependant, le brouillard est venu plus vite. L'avion de KLM a heurté le côté du Pan Am et les deux avions ont explosé. L'incident a tué 583 personnes. Cet incident est devenu l'accident d'avion le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 27 mars 2009, la digue de Situ Gintung s'est brisée, tuant 100 personnes. La digue de Situ Gintung dans la ville de Tangerang Sud, province de Banten, s'est effondrée le 27 mars 2009 à l'aube. La brèche de la digue de la fabrication néerlandaise en 1932-1933 a touché des zones résidentielles et détruit le complexe résidentiel Cirende Permai, anéanti une partie du village de Poncol et endommagé la faculté de santé et la faculté de la religion islamique de l'Université Muhammadiyah de Jakarta. Un chercheur du Centre de catastrophe de l'Institut de technologie 10 novembre, Surabaya, Amin Widodo a déclaré que trois facteurs étaient à l'origine de la catastrophe. Tout d'abord, le facteur antenne, à savoir l'état de la digue. Deuxièmement, les facteurs extrêmes, tels que les tremblements de terre, les glissements de terrain et les fortes pluies. Enfin, les facteurs humains, comme les constructions autour de la digue, la déforestation, etc. C'est du retard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
sunyi menyepi. Hanya aku yang menunggu cerat rindu, dan kau harus sadari itu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie mène le monde vers une transformation globale du désert moment ». L'Indonésie, représentée par l'ambassadeur Febrien Arudiat, est présidente de la Conférence du désarmement ou CD à Genève en Suisse jusqu'au 15 mars 2024. L'Indonésie préside le segment de sommet de la CED au cours de la deuxième semaine de la présidence qui se déroule du 26 février au 1er mars 2024. Cette réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, OTICE, et de hauts responsables de 65 pays membres de la CED, dont la ministre des Affaires étrangères de la République de l'Indonésie, Retno LP Marsudi. Lors d'une conférence de presse diffusée sur le compte YouTube du ministère des Affaires étrangères, mardi 27 février, Retno Marsudi, l'un des intervenants de la conférence de haut niveau sur les désarmements, a déclaré que l'Indonésie a souligné l'importance de sortir de l'impasse envisagée par la conférence sur le désarmement actuellement.
Di dalam pernyataan nasional saya tekankan pentingnya mengatasi kebuntuan.
Dans la déclaration nationale, j'ai souligné l'importance de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve actuellement la conférence du désarmement. En tant que président, l'Indonésie s'engage à encourager la transparence, l'équilibre et le dialogue constructif. Citant le site officiel du ministère des Affaires étrangères, l'Indonésie voit l'occasion en tant que président de la conférence du désarmement de démontrer sa position de leader dans la promotion de la paix et de la sécurité mondiale à travers l'agenda du désarmement. Dans un effort pour surmonter la polarisation et les désaccords actuels, le leadership de l'Indonésie se concentrera sur la revitalisation de la volonté politique, l'augmentation de la confiance, la réduction de la méfiance entre les pays et l'amélioration des procédures de travail en matière de CD. Cela peut être réalisé en organisant des discussions thématiques interactives. Étant donné qu'il s'agit de la première tentative dans l'histoire de la CD, l'Indonésie produira un document de travail qui deviendra un document officiel de la CD. L'Indonésie s'est également engagée à veiller à ce que la conférence du désarmement discute de questions nouvelles et importantes, telles que l'utilisation de nouvelles technologies dans le système d'armes, d'une manière qui donne la priorité à la coopération, à un débat ouvert et qui répond aux aspirations des membres de la conférence. Fondée en 1979, la CED est le principal forum de coopération multilatérale visant à parvenir à des accords internationaux sur le désarmement, y compris sur les armes de destruction massive. La conférence du désarmement a joué un rôle important dans l'élaboration de plusieurs traités importants, tels que le traité de non-prolifération des armes nucléaires, TNP, la Convention sur l'interdiction des armes biologiques, BTWC, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, CAC, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, CTBT. Le leadership de l'Indonésie au sein de la conférence du désarmement marque un progrès majeur dans les efforts mondiaux pour mettre fin au désarmement des armes à feu, en particulier des armes de destruction massive, et créer un endroit plus sûr pour la paix et la sécurité dans le monde. C'est Jurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Hanya memanggil namaku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Segala dusta yang bergulir dan bertambah goreskan luka dalam. Biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya hatimu yang kelak aku tinggali. Duka yang terlahir oleh sikap dan semua tingkah lakuku. Biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya restumu yang kan mampu membuka jalanku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak oleh hasratku. Aku berdiri di tepian ruang hampa. Izinkanlah.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Sejuritak, la plage de Tanjung Lesung est située à 95 km de la ville de Serang, précisément à la pointe ouest de Java, dans la région de Pandeglang à Banten. Il est nommé Tanjung Lesung car sa forme ressemble à un mortier, un moisson d'année signifiant un récipient pour piler le riz. Tanjung Lesung est une plage intégrée avec des zones de loisirs et de villégiatures offrant une vue magnifique sur le mont Anak Krakatau, le seul vestige du légendaire mont Krakatau. D'une superficie de 1500 hectares, Tanjung Lesung a été développé par Banten West Java ou BWJ, Tourism Development Société Anonyme depuis 1996, sur le modèle du célèbre Nusa Dua Resort à Bali. Le plan est que cette plage soit remplie de complexes hôteliers de luxe, de divers restaurants, de salles de conférence, de terrains de golf, de marina et de parcs d'attractions. À Tanjung-Lesung, vous pourrez profiter de la beauté d'une vaste étendue de sable blanc et doux, de plantes vertes luxuriantes, d'une eau bleue claire et apaisante et de vents tropicaux frais soufflant autour de la plage. Vous pouvez également essayer diverses activités passionnantes comme jouer au volleyball de plage, prendre des photos, surfer, monter sur un bateau à moteur ou encore vous détendre jusqu'au coucher du soleil qui peuvent être pratiqués autour de cette plage de 15 km de long. La belle vue sur Tanjung-Lesung se trouve également sous la surface. De magnifiques récifs coralliens remplis de poissons colorés et d'autres habitants des fonds marins font de cette plage un paradis pour les amateurs de plongée en apnée et de plongée. Pour ceux qui aiment la sensation d'attraper de gros poissons, plusieurs spots de pêche sont également disponibles au large de Tanjung-Lesung. Parce que les eaux de Tanjung-Lesung sont riches en différents types de poissons, vous pouvez facilement trouver de nombreux stands vendant des plats de poissons frais. L'un des plats les plus recherchés ici est le saté bandeng, un satay à base de chano, enrobé d'épices traditionnelles indonésiennes puis fumé. En outre, il existe également plusieurs plats à base de viande que vous devriez essayer. Lorsque le soleil se couche, vous pouvez assister à une poignée de spectacles d'art banten extraordinaires le long de la côte de Tanjung-Lesung, tels que des danses du feu spectaculaires, des débus, des spectacles de musique traditionnelle, ainsi que d'autres spectacles culturels fascinants. Plusieurs festivals culturels typiques de Banten proposent des collations locales typiques, sont également souvent organisées dans cette région phénoménale. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure et à la même fréquence. À bientôt.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est « Belum pernah berenang dengan hiu ».« Belum pernah berenang dengan hiu ». Jamais nager avec les requins. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Belum pernah berenang dengan hiu. Belum pernah berenang dengan hiu. En français, jamais nager avec les requins. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Ayu, une amie de la communauté de vlog de Chris, sur l'île de Karimunjawa. Chris a dit à Ayu qu'il n'avait jamais nagé avec les requins. Bonne écoute.
Besok kita akan ke pulau Menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous donner et introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, intitulé « Belum pernah berenang dengan hiu ».« Belum pernah berenang dengan hiu ». »« Jamais nager avec les requins ». Je vous prononce doucement et lentement chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. « Belum pernah berenang dengan hiu ». Belum pernah berenang dengan hiu. Jamais nagé avec les requins. Belum pernah. Belum pernah. Jamais. Berenang. Berenang. Nagé. Dengan. Dengan. Avec. Hiu. Hiu. Requin. Aman. Aman. Sûr. Besok. Besok. Demain. Pulau Menjangan kecil. Pulau Menjangan kecil. Petite île de Menjangan. Tenang saja. Tenang saja. Reste calme. Kecil-kecil. Kecil-kecil, petit. Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu la déclaration « Saya belum pernah berenang dengan hiu ».« Saya belum pernah berenang dengan hiu ».« Je n'ai jamais nagé avec les requins ». Dans cette déclaration, il y a l'expression « belum pernah berenang dengan hiu ». Belum pernah berenang dengan hiu. Jamais nager avec des requins. L'expression belum pernah. Belum pernah. Jamais auparavant. Dans cet énoncé, la fonction est d'expliquer l'activité de nager avec les requins. Dans le contexte de cette conversation, Chris a déclaré qu'il n'avait jamais fait l'expérience de nager avec des requins. Chers amis, écoutons notre exemple d'utilisation de l'expression « belum pernah ».« Belum pernah », »« jamais auparavant » pour exprimer une expérience. « Dia belum pernah bermain golf ».« Dia belum pernah bermain golf ». »« Il n'a jamais joué au golf ». « Saya belum pernah berkunjung ke pulau Menjangan kecil ». »« Saya belum pernah berkunjung ke pulau Menjangan kecil ». En français, je n'ai jamais visité l'île de Menjangan kecil. Sejouitard dans les îles Karimunjawa, au centre de Java, il y a 27 îles. Deux des îles utilisent le nom de Menjangan, à savoir l'île Menjangan besar et l'île Menjangan kecil. Le nom Menjangan signifie rusa ou serfa, l'animal que l'on trouve sur les deux îles. La particularité des deux îles est qu'elles abritent une nurserie de requins. Les visiteurs peuvent nager avec les requins. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien. Pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Besok kita akan ke pulau menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical. Avec moi, Audrey, je vais vous présenter une chanson de Nunukan Kalimantan du Nord intitulée Yaki Bantawol, chantée par Fika ou Julia. Chers amis, la chanson Yaki Bantawol contient le folklore de la tribu Tidung sur la légende de Batu Tinagat, tribu Tidung Kalimantan du Nord. Les paroles racontent l'histoire de grand-père Bantamol, un homme dont la vie était toujours dans le besoin. Yaki, en langue Tidung, signifie grand-père. Un jour, Bantawol s'est rendu sur une montagne rocheuse appelée Batu Tinagat. À Batu Tinagat, Yaki Bantawol a rencontré une très belle femme. Et c'est arrivé que cette femme était une princesse du ciel. Bon, chers auditeurs, voici Fika Julia va chanter une chanson de Nunukan Kalimantan du Nord intitulée Yaki Bantawol. Bonne écoute! Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.